et DeLorean sont toujours en grève, ainsi que blocage de l'université. Et là, nous sommes en train de réaliser un barrage franc sur la voie express au niveau de DeLorean. Voilà.
Salut Daniel, c'est Marion. Bah écoute, on est à Lyon. Il y a Sarkozy qui doit venir là, à Lyon, au centre de congrès. Et on est bloqué. On est environ 60, une bonne soixantaine. Et il y a autant, si ce n'est pas plus, de CRS qui nous entourent. On peut pas bouger. Ça fait au moins une heure et demie qu'on est là. Il y a des enfants, il y a des femmes. On est là de bonne humeur, mais on commence à avoir super froid et on se dit que vraiment il doit y avoir la France a peur, la France a vraiment peur de petits jeunes citoyens qui sont là dans la bonne humeur et qui veulent juste s'exprimer librement. Voilà.
Nous sommes en grève contre le contrat première embauche. Nous sommes les étudiants de l'IUT Carrière Sociale de Bordeaux. Nous occupons les locaux de l'IUT depuis lundi, jour et nuit. Et nous ne sommes pas fatigués. Et nous ne serons pas avant longtemps, car notre lutte est juste. Nous sommes engagés et unis pour refuser l'avenir précaire que le gouvernement entend nous imposer. Nous ne sommes pas partisans politiques. Et afin de répondre à la politique par la créativité, nous sommes spontanés et alternatifs. Dans les locaux de l'IUT, nous nous sommes organisés. Nous avons pensé à un mouvement créatif afin de n'être pas seulement contestataires. Nous organisons débats, concerts de soutien, intervention sur le cadre juridique et les idées qui ne nous manquent pas pour la suite. Nous sommes ouverts à tous pour œuvrer ensemble dans un mouvement citoyen et humain. Nous sommes dédouanés de toute étiquette, sauf de celle de l'unité et de la persévérance. Nous savons ce que c'est que l'égalité des chances, nous savons surtout que ce n'est pas ce que renferme la loi qui en porte le nom. Nous sommes déterminés à lutter. Le gouvernement ne nous respecte pas. Il nous déclare la guerre, nous saurons être guerriers. La dernière assemblée générale en date, hier soir, mercredi 22 février, a voté le blocage de l'IUT pour aujourd'hui, jeudi 23 février. Le blocage est reconduit.
En 1986, j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais au lycée, et sous le premier ministère de Jacques Chirac, qui n'était pas encore président, mais apprenti président, M. Devaquet avait produit une loi qui sélectionnait l'entrée de l'université et qui avait provoqué un grand étendue de manifestations parmi la jeunesse et petit à petit, si je me souviens bien, un blocus total des universités ainsi que des lycées et compagnie. Tout ça pour dire que la jeunesse d'hier n'est pas différente de celle d'aujourd'hui. Il suffit qu'elle soit unie parce que l'histoire montre que chaque fois qu'il y a une manifestation commune et puis vraiment suivie et collective, eh bien, les projets de loi sont balayés par l'ostracisme populaire. Voilà, c'est un message à destination de la jeunesse. Continuez votre lutte, si vous avez raison, forcément vous gagnerez. Ciao.
Oui, salut, là-bas si j'y suis, salut Daniel Mermet. Donc je vous appelle pour pouvoir faire un petit devoir de mémoire. À l'heure de l'immigration choisie, de la reconnaissance du rôle de la France par rapport à l'esclavage ou encore à la polémique sur l'aspect positif de la colonisation, je rappelle qu'aujourd'hui cela fait un an que l'un des plus vieux dictateurs de la planète, à savoir le dictateur général Yassine Bey Adema, est mort dans le petit pays qu'on appelle le Togo, ce petit pays d'Afrique. Le seul chef d'État à avoir déploré la perte d'un ami de la France et d'un ami personnel n'était autre que notre président Jacques Chirac. Je rappelle les faits. Le fils du dictateur Yassine Bey a été placé par les militaires à la tête de l'État et sur le trône de son père, malgré tous les processus démocratiques qui devaient avoir lieu. Il a été obligé de démissionner sous la pression de l'OUA pour tout simplement se représenter de manière officielle aux élections présidentielles qui ont été bâclées, qui ont été truquées, puisque nous avons vu à la télévision, ne serait-ce que sur France 2, les militaires qui volaient les urnes et les remplaçaient par des urnes bourrées du nom de Fort Yassine Bey. Il faut savoir que cette élection a été validée par l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, qui n'est autre que l'antichambre de l'Élysée, comme chacun sait. Alors on parle de déclaration de non-ingérence de la France par rapport à ses anciennes colonies. Rappelez-vous que Jean-Luc Manot, l'ancien journaliste de TF1, n'était autre que le monsieur communication de Fouriazing Bay pendant les élections. Il se trouve que c'est aussi le monsieur communication de notre ministre de la Défense, Michel Alliomari. Sans commentaire.
Bonjour, c'est Anne-Sophie à Paris. Voilà, cet été, je vous avais appelé pour vous dire que la Benne avait pris le matelas de Marceline, qui habitait sur le trottoir, si on peut dire comme ça. Et ben, la Marceline nous a quittés, mais c'est pour toujours. Et je voulais dire à ceux qui l'ont connue, qui l'ont aimée, qu'un dernier hommage lui sera rendu, donc au crématorium du Père Lachaise, lundi 27 février, à 16h. Voilà, merci. Au revoir.
Émouvant message qui fait écho à ce qu'on vit depuis hier soir ici à Chittagong. Si je regarde des photos sur l'écran de mon appareil photo, je vois des jeunes femmes, mignonnes comme tout, dans un atelier de confection. C'est pas la gaieté, elles sont au boulot, mais après tout, bon, voilà, l'atelier n'est pas si mal, les conditions ne sont pas si mauvaises. On est en train de visiter un atelier de confection, comme il y en a beaucoup, beaucoup au Bangladesh. 2 millions de femmes travaillent dans ces ateliers de confection et le représentant du syndicat des patrons de ces ateliers nous montre que voilà, ça se passe bien. Et donc je fais des photos de ces femmes, voilà, au travail, jeunes, gracieuses et qui, pour pas grand chose évidemment, pour quelques cacahuètes, font la couture et la confection des vêtements que nous portons, nous autres, dans les pays riches. Et puis, si je continue de regarder les photos, je vois des visages de femmes grillées, brûlées, cramoisies, boursouflées, des corps torturés et calcinés, c'est les mêmes. C'est qu'entre les deux, il y a eu hier soir, ici à Chittagong, un incendie terrible dans un atelier de confection dans lequel il y avait 1200 ouvrières qui étaient au travail. C'est dans le quartier Kalurgat, au sud de Chittagong, dans les ateliers de l'entreprise KTS. Et le feu a pris très rapidement et s'est répandu dans les ateliers, dans les étages. Ça a été la panique. Des femmes se sont jetées par les fenêtres. D'autres ont été écrasées dans le piétinement parce que les portes étaient restées fermées. Les équipements, vous l'imaginez, sont terribles. Il n'y a pas du tout de système de sécurité, d'incendie, etc. On est arrivé sur les lieux pour voir 3 malheureuses lances de pompiers en train d'essayer d'éteindre un énorme bâtiment dans lequel il y avait encore des ouvriers, surtout des ouvrières prisonnières. Et aujourd'hui, on est allé à l'hôpital, on a passé la journée à l'hôpital de Chittagong, au chevet de ces femmes brûlées et de leurs familles qui attendent les nouvelles. Le nombre de morts, c'est 60 morts officiellement, mais le nombre augmente d'heure en heure. Mais c'est surtout l'horreur, par exemple, de rencontrer une jeune fille très traumatisée. Elle a 13 ans. Elle a réussi à survivre, elle travaille dans cet atelier de confection et elle recherche sa petite sœur de 11 ans qui bosse déjà dans cet atelier et dont elle est sans nouvelles. C'est une suite comme ça de souffrances terribles, mais c'est pas n'importe quel incendie, c'est pas n'importe quelle victime, c'est vraiment les victimes et des incendies de la mondialisation. Il faut vraiment faire un lien entre cette mondialisation libérale qui pousse au moins 10 ans social à travers le monde, et surtout cesser de croire que les délocalisations sont bonnes pour les pays en développement, pour les pays pauvres. C'est absolument faux. La fin de l'accord multifibre du 31 décembre a fait complètement chuter les quelques avantages, les quelques progrès qui avait été remarqué au Bangladesh dans le domaine de la confection. Et bien tout ça s'est écroulé, s'est effondré, on l'a vu à travers cette catastrophe, cette nouvelle catastrophe qui est survenue hier et aujourd'hui qui continuent dans ce pays fragile, industrieux, douloureux, incertain qu'est le Bangladesh. Voilà l'état d'esprit. Aujourd'hui, dans la base où j'y suis, on va ouvrir un classique, on va revenir à un classique, on va ouvrir un grand livre avec une seule image, c'est le déjeuner sur l'herbe de Manet. On va se mettre devant cette toile au musée d'Orsay et on va écouter ce que cette toile fait dire. Ce sera une heure avec vous et avec elle qui est sur cette toile fameuse. C'est juste après les messages qui suivent que vous avez laissés, comme chaque jour, dans la boîte vocale de la basse ici au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour à tous. Voilà, je vous appelle à propos d'une question de vocabulaire qui me choque un peu. On a dit il y a quelques jours que, pour le meurtre de Dylan, il y aurait des circonstances aggravantes du fait que ça pourrait être un crime raciste, antisémite. Circonstances aggravantes. Ça, c'est assez étrange, je trouve. Ça voudrait dire que si c'est pas un crime raciste ou antisémite, c'est moins grave. C'est moins grave qu'un mec se fasse torturer pendant 2 semaines et on meurt si c'est pas parce qu'il était juif. Ouais. Ben, il y a quand même des choses à changer, peut-être. Peut-être qu'il faudrait voir que qu'on soit juif ou pas, ou qu'on se fasse agresser parce qu'on soit juif ou pas. Il n'y a pas de circonstances aggravantes. C'est un être humain qu'on a torturé, qu'il soit juif ou pas. C'est pas plus grave ou moins grave. Enfin bon, voilà. Voilà, c'était Pauline d'Audinville. Salut.
Oui, salut Daniel, salut les amis de la Bastille Suisse. Voilà, merci de passer ce petit message pour les auditeurs de Pau. Alors, le prochain Café Repère se tiendra le mercredi 1er mars à 19h, toujours au Café Le Matisse, en face le Musée des Beaux-Arts. Voilà, je vous dis à bientôt. Adi chat.
En fait, je voulais raconter comment reconduire un étranger assigné à résidence à la frontière. Alors, petit 1, on lui donne rendez-vous au service des assignations à résidence. Enfin, un simple guichet, en fait, exclusivement ouvert chaque mardi. Petit 2, on lui fixe ce rendez-vous impérativement le dernier jour de validité de la dite assignation à résidence. Petit 3, on ferme exceptionnellement ce guichet ce jour-là, sans l'en avertir, évidemment. Petit 4, être dans l'impossibilité de lui faire une attestation de passage qui prouverait, bordel, une fois n'est pas coutume, pour cet encombrant étranger, sa bonne foi. Petit 5, l'attendre en costume de policier assermenté à la sortie de la préfecture. Bah, comme dirait Audiard, nous, les travailleurs sociaux, on critique pas le côté farce, mais question fair play, il y aurait à redire. Voilà, merci à toi pour tes émissions, et puis un de ces quatre dans un interpère. Ciao. Enfin, aux auditeurs.
Bonjour, c'est un message pour le repère de Ploubalet. Donc Ploubalet, c'est entre Saint-Malo, Dinan, Dinard, au bar le Penalty, qui se trouve sur la place de l'église. Le lieu de rendez-vous, donc, c'est le Penalty, et l'heure, c'est 20h, et c'est le mardi 28 février, tous les derniers mardis de chaque mois. Donc voilà, on vous attend. La dernière fois, on a beaucoup parlé de la citoyenneté, et je crois que nous en reparlerons encore, puisque c'est le thème qui a été choisi pour cette nouvelle rencontre. Voilà, merci, à bientôt.
Au secours, repère en péril, celui de Saint-Césaire, en Charente-Maritime. Saint-Césaire, c'est près de Saintes et pas loin de Cognac. Nous nous retrouvons le dernier samedi de chaque mois au même endroit, le Géocafé du Paléocite. Venez à notre prochain rendez-vous le samedi 25 à 15h30. À bientôt et merci à toute l'équipe de passer mon message.
Bonjour ailleurs si j'y suis. Ici Grenoble, maire de toutes les technopoles, ville des nécrotechnologies comme on dit. Aujourd'hui, France Inter consacre le 7-9 de Stéphane Paoli et le téléphone sonne d'Alain Bédouet aux nanotechnologies. Si vous ne savez pas ce que sont les nanotechnologies, vous n'aurez bientôt plus d'excuses. En janvier, le téléphone sonne y consacrait déjà une émission, avec 3 invités propagandistes des nanos. Samedi dernier, c'est Jean Terme, directeur du commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, que France Inter interrogeait sur le sujet. Avant juin prochain, Alain Bédouet a annoncé un troisième téléphone sonne sur les nanotechnologies. Pourquoi avant juin ? Parce que le 1er juin 2006, en présence de Jacques Chirac, le commissariat à l'énergie atomique et le technogratin inaugurent à Grenoble le pôle Minatech, le premier pôle européen pour les nanotechnologies. À Grenoble, on n'a pas le choix. Ici, on sait que les nanos servent à fabriquer des RFID, des mouchards électroniques, des microcapteurs de surveillance ou Smart Dust, des capteurs biométriques, des caméras de surveillance dites intelligentes, des organismes atomiquement modifiés et toutes sortes de gadgets communicants. On sait que les nanoparticules déjà présentes dans les crèmes solaires et nombre de produits industriels nous préparent une catastrophe de l'amiante bis. On sait que les nanos servent à fabriquer les armes du futur, obus intelligents, microdromes, armes à visée infrarouge, et que l'armée est impliquée dans Minatech. On sait que pour faire de la place aux ingénieurs de Minatech, les pauvres sont priés de déguerpir, et que sur les 200 millions d'euros que coûte Minatech, 115 viennent de fonds publics. On sait aussi qu'on ne nous a jamais demandé notre avis sur les nanotechnologies, pas plus que sur les OGM ou le nucléaire. On en sait des choses que France Inter n'a pas pensé à nous demander. France Inter dit oui, oui aux nécrotechnologies. Nous, on dit non. Et c'est pourquoi on vous invite, toutes et tous, à Grenoble, le 1er juin 2006, pour manifester contre l'inauguration de Minatech. Cet appel constitue tout le plan média de l'opposition grenobloise aux nécrotechnologies. Contact ogn@poivron.org. Je répète, contact ogn@poivron.org. À bientôt.
Et ici le Café Repère de Grenoble. Alors, à l'occasion de la journée spéciale nanotechnologie, le mercredi 22, je profite de cette journée pour vous dire que le 3 mars sera organisé au Café Repère, donc de La Bonne Heure à Grenoble, à 18h30, la diffusion d'un petit film sur le sujet, avec un débat, nous éclairera un petit peu mieux sur tout ce qu'engendrera la nanotechnologie. Merci. Alors, vendredi 3 mars, 18h30. Au revoir.
On voit un monsieur habillé en costume, enfin il y en a deux. Il y a une dame, enfin ils font une dame nue. Ils font un pique-nique. Il y a une autre dame qui cueille de l'herbe.
Ils sont dans de l'herbe.
Enfin ils sont dans une forêt. La dame nue elle s'est déshabillée puis elle avait un panier de fruits
avec des cerises.
Mmh. Et il y a un monsieur on dirait qu'il est russe parce qu'il a un chapeau comme ça.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Elena Namias. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
On sait pas, mais on devine. À notre avis.
La très chère et tenue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quatre vers de Charles Baudelaire et vous. Vous, c'est-à-dire 500 000 images différentes, uniques et nues, qui viennent de naître. 500 000, vous êtes à peu près, et chacun vient de s'inventer sa propre très chère. Chacun a vu la posture, la parure, le soyeux de la peau, le bombé de la lèvre, les tissus, la tiraille, l'opulente, les hasards, la suite de l'histoire, les parfums, la belle offerte esclave de cœur. Chacun son cinéma intime, chacun sa mythologie personnelle, chacun sa lumière, chacun interprète, chacun s'approprie cette matière à réflexion. Pour peu que le mystère soit suffisant, que le mystère soit ouvert, qu'il y ait du non-dit, de l'inachevé, alors du lieu commun naît le rêve unique. Tout ça, pas seulement pour rappeler, bien sûr, que la radiophonie est l'art le plus visuel qui soit, mais aussi à l'heure où nous sommes sous le choc des blocs soumis au binaire, où nous en sommes réduits à nous soumettre à l'indigence des chiffres, réduits, réductrice démocratie. Faut-il qu'autant d'intelligence, de cœur, de mémoire, de pensée, de science, de beauté aboutissent à deux chiffres ? Noir, blanc, bloc, camp, perdant, gagnant. Quantité sans qualité. Pour un monarque président. Sans doute, le moins mauvais système, mais encore combien de temps impuissant à représenter, à nous rendre la diversité, la multiplicité, le chatoiement infini des sensibilités mouvantes, contradictoires, hésitantes, irrésolues, nature humaine. Comme si le citoyen devait se ranger, se rogner, se classer, s'aligner. Alors aujourd'hui, éloge de la diversité, éloge de l'indiscipliné. Aujourd'hui, l'idée est simple. L'idée, c'est que le regard est plus important que la chose regardée, comme le disait Marcel Duchamp. On va déjeuner sur l'herbe, au Quai d'Orsay. Ça ressemble un peu à Corset, mais non. C'est dehors, c'est dans la nature, c'est dans les rêveries, dans vos rêveries, parce que l'écoute aussi est plus importante que la chose écoutée.
Elle est bonne ?
Ah, ah oui, oui. C'est froid. Qu'on est bien avec les pieds dans l'eau.
On recule un petit peu, là, comme...
Oui, pour bien regarder un tableau, il faut être prêt si on veut regarder la technique, mais pour bien regarder le tableau, pour le plaisir de le regarder pour lui-même, il vaut mieux être loin. Et encore plus quand il s'agit d'une peinture impressionniste pour que les yeux fassent le mélange des couleurs, mais ce n'est pas le cas, le cas ici.
Moi, je suis venu voir ce tableau parce qu'il est tellement connu que c'est plus pour sa célébrité que pour autre chose, si vous voulez. Alors, voilà.
Je vois des fruits, des gens qui pique-niquent, de l'eau, des messieurs et des dames. Puis c'est tout, hein.
Rien n'entend autant d'imbécilité qu'un tableau de musée. Je me demande si c'est pas de Flaubert, cette phrase-là. On va lui donner tort parce que ce serait trop facile d'aller traquer l'idiot du musée à Orsay ou ailleurs. Là, c'est à Orsay qu'on va, et on va se poster avec Elena Namias devant le célébrissime déjeuner sur l'herbe de Manet. Alors, il y a deux cas, ou bien vous connaissez la peinture, ou bien vous la connaissez pas. Si vous la connaissez, vous allez la voir différemment, et puis si vous la connaissez pas, vous allez les découvrir par fragments à travers les yeux des visiteurs de ce musée. Qu'est-ce qu'on peut voir dans une peinture ? Eh ben, on peut se voir. Il y a un moment où, entre les intentions du peintre et le regard que nous portons à la peinture, il y a un tel malentendu, il y a une telle distorsion que finalement, nous n'avons plus qu'à nous approprier l'œuvre, l'objet qui est proposé, cette matière à réflexion, à rêverie, à méditation, à introspection que devient la peinture. Et c'est ce fécond malentendu, ce phénomène extraordinaire auquel nous allons assister. Mystère, j'emploie des mots un peu comme ça religieux, tant il est vrai que chez nous, dans nos cultures, au fur et à mesure la fréquentation des églises diminuait, s'accroissait la fréquentation des musées. Hein, les lieux de pèlerinage aujourd'hui, c'est Orsay, c'est le Grand Palais, c'est les grandes expos, c'est des vrais lieux de pèlerinage, et il y a un culte de la culture qui a remplacé, c'est un peu simple comme schéma, mais ça fonctionne à peu près, le religieux. Mais ça veut dire quoi ? Eh ben, ça veut dire qu'il y a du religieux dans la peinture, tout comme il y avait de la de la peinture dans le religieux. Il y a ce regard muet qui n'ose pas intimider devant les œuvres qui sont alignées le long des murailles, des musées, murailles qui enferment comme ça des beautés intimidantes, des sortes de cimetières de la vie. Et on va voir comment, simplement en donnant la parole à ce qui passe, on va peut-être retrouver les gestes de ce merveilleux Manet qui voulait aller vite. C'était un homme pressé. Manet était un homme pressé qui voulait peindre du coup, sans préméditation, visible en tout cas, et qui évidemment précédait en ça tous les peintres du geste, de la trace, du provisoire, de l'inachevé, qui allait lui succéder jusqu'à Pablo Picasso. Même si en fait, évidemment, Manet était un grand admirateur, contemplateur du Titien. On va le voir dans ce nu à travers l'éclatante sensualité de la femme qui figure dans ce tableau, et aussi grand admirateur de Velázquez pour cette rapidité souveraine du geste, un peu comme en rêvait d'une autre façon des grands artistes du jazz. Je dérive, je me laisse complètement aller depuis quelques instants. C'est ça l'idée du jour, c'est cette liberté à l'intérieur et surtout à l'extérieur du cadre où la vie est enfermée.
Bonjour monsieur, vous êtes l'agent de sécurité ?
Non, je ne suis pas sécurité, moi. Je ne suis pas un chef, moi je suis un agent de technique.
Vous surveillez les salles ?
Oui, ça.
D'ici, vous pouvez me dire ce que vous voyez ?
Édouard Manet, le tableau. Le déjeuner sur l'herbe. Là, c'était un tableau qui était refusé au salon des refusés, ce tableau a été refusé. Oui, à Manet, c'est ça. C'est tout ce que c'est.
Non, mais sur la toile, vous voyez quoi ?
Là, c'est une dame qui est nue, une femme nue qui... avec un monsieur Manet, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas exactement, il faut plus partir à un conférencier, parce que moi je ne suis pas qualifié pour... J'ai un autre travail, c'est pour la sécurité, moi. Je ne suis pas là pour parler, madame, si je contrôle les flashs, les appareils photographiques. Moi je ne peux pas vous dire plus, hein. Je contrôle les flashs, madame, je ne peux pas...
Les flashs tuent la peinture, mais est-ce que les regards... La font vivre. Oui, bien sûr, sans regard, il n'y a pas d'œuvre. Ce serait un dialogue de sourds. Ça, c'était le gardien, ce qui prouve au passage que c'est pas ceux qui sont les plus anciens dans le lieu qui ont la plus fine compétence. Compétence, docte compétence, bien évidemment. Un regard, cependant, un seul regard de ceux qu'on appelle les conservateurs, les bien-nommés conservateurs. Marie-Pierre Salé vous explique le déjeuner sur l'herbe.
Alors, le déjeuner sur l'herbe a été exposé pour la première fois en 1863 au Salon des Refusés. Ce qui a, à l'époque, beaucoup choqué la critique, beaucoup choqué le public du Second Empire, c'est à la fois, bien sûr, le sujet. C'est une partie carrée, ce sont des étudiants et une prostituée dans la campagne. Aujourd'hui encore, les historiens d'art s'interrogent sur la nature exacte des intentions de l'artiste.
Vous, personnellement, vous l'interprétez comment ?
Je le lis surtout comme une étude du peintre pour situer une figure et des personnages dans un paysage, pour se référer aussi à toute une tradition de la peinture, donc comme une réflexion du peintre sur le nu, sur le réalisme, sur le nu moderne et sur la vie moderne. Il y a des références évidentes à l'œuvre de Titien, du Concert champêtre, et puis également à une œuvre de Raphaël gravée par Marc-Antonio Raimondi qui s'appelle Le jugement de Paris.
Elle est relativement proche d'un des étudiants,
oui.
Mais elle a les jambes passablement ouvertes. Et donc elle a le pied à côté d'un étudiant, du premier. Oui. Par contre, elle a un pied aussi qui touche l'autre étudiant, donc ils sont en triangle assez près l'un de l'autre. Mm-hmm. Et je me demande même si, comment dire, s'il n'a pas directement accès sur ses parties sexuelles à la femme.
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez ?
Bah, je pense qu'il voyait ce qu'il voulait voir, de toute façon. De très nombreux critiques ont écrit sur le tableau dans leur revue du Salon des Refusés, donc de 1863, notamment Chénaud et Thoré, et qui se sont attachés au sujet, comme je vous le disais, qui ont aussi été très, très surpris, et étonnés et choqués. Le terme de bizarre a même été employé par Chénaud pour qualifier le style de Manet. Bizarre, oui.
Bizarre. Heureusement, voilà, cette conservatrice et notre Elena qui a un regard bien libidineux, cette Elena. Mais c'est vrai que c'est très marrant de penser au nombre de prostituées qui ont posé pour les peintres, les demoiselles d'Avignon. C'était un bordel de Barcelone dans la carrière des Avignon, où Picasso s'est rendu et devant lesquels il passait tous les jours. Et puis il y a la fameuse statue de la liberté, la statue. De la liberté, mes enfants. Eh ben oui, on sait qu'il s'agit d'une femme de mauvaise vie que Bartholdi avait trouvée dans un bordel autour de l'école militaire. Mais sans doute que c'est pas les seuls cas. Hein, j'ai pas une érudition formidable en matière d'histoire de l'art, mais c'est sûr qu'on doit partout sur la planète admirer des corps d'hommes et de femmes qui n'étaient que de villes prostituées, que je trouve une belle fable. On continue dans ce musée avec le regard de chacun.
À ce que je vois, eh bien, je vois dans une forêt, je vois une dame à l'horizon, deux couples. Il y a deux couples en général, en principe. Ils ont amené leur déjeuner, c'est-à-dire une brioche, des cerises, je ne sais quoi encore. Hein. Vous avez vu à la côté, non? Et puis, à l'arrière, il doit y avoir un peu d'eau et il y a une personne qui doit se préparer à prendre un bain. Elle n'a pas l'air d'enlever ses vêtements. Elle est appuyée sur l'herbe ou sur une pierre qui est là. Où je pense qu'elle va prendre un bain. Voilà ce que je vois. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu ?
Eh bien, moi, j'ai vu deux hommes et une femme assis au milieu d'une clairière, dans les bois, avec effectivement la dame qui met sa main dans l'eau, plus loin.
Parce que vous, ça s'appelle le déjeuner sur l'herbe, mais avant, ça s'appelait le bain, hein, ce tableau-là.
Et il y a une femme, donc une femme qui est nue, à côté des deux hommes habillés.
Oui, oui, bien sûr. Elle a dû le prendre, son bain, elle sèche.
Et je me demandais qui ils étaient. Est-ce que ce sont des amants ?
Pas forcément. Parce qu'au fond, ils ne se regardent pas comme des amants. Il y en a deux, d'ailleurs, qui regardent le public. Là, hein, et l'autre discute, et il ne fait pas du tout attention à la femme nue. Et il ne fait pas non plus attention à celle qui va se déshabiller.
Et à votre avis, c'est qui ces gens ?
Ah, ben, c'est des promeneurs, peut-être dans une propriété, parce qu'il y a un bateau, hein, vous voyez, là, ils sont peut-être venus en bateau.
Et qu'est-ce qui va se passer après ? Ça va se terminer comment, cette histoire ?
Ça va bien se terminer. Ils vont se rhabiller, ils vont repartir. C'est pas une partie carrée. Allez.
Tu as des habits, tu as des cerises. Je vois du pain là. Tu as un bateau qui brille là. Puis je vois le ciel là. Et puis je vois là-bas la montagne. Puis je vois une dame assise sur les fesses. Puis elle est assise sur un autre habit, sur son pantalon. Et puis elle est à côté de son copain. Puis en face, il y a son mari. Puis ils se regardent.
Qui se regarde ?
Les deux messieurs. Je vois qu'un monsieur regarde le monsieur, puis un autre regarde par là-bas. Puis je vois plus rien. Je vois plus rien.
Mot d'un enfant devant le déjeuner sur l'herbe de Manet au musée d'Orsay à Paris. Déjeuner sur l'herbe qui suscite toujours des commentaires, comme beaucoup de peintures, toujours, heureusement. Et tant qu'on parle, les peintures existent. C'est ça la légende de l'image. Et sur cette image, beaucoup de légendes. Un certain Claretti déclarait, lorsque cette peinture a été présentée, « Qu'est-ce que cet odalisque au ventre jaune, ignoble modèle ramassé je ne sais où ?» Scandale à l'époque de cette peinture. Les scandales en peinture à l'époque étaient fréquents, on adorait ça. Et Manet avait dit, il faut que je fasse un nu, et ben je vais leur en faire un dans la transparence de l'atmosphère avec des personnes comme celles que nous voyons là-bas. C'est-à-dire, pas oublier que Manet était pote avec Baudelaire, mais aussi avec Zola, et qu'il était très pas du tout impressionniste, pré-impressionniste. Et qu'il était très attiré par la réalité, les choses telles qu'elles apparaissent, telles qu'elles sont, les femmes telles qu'on voudrait qu'elles soient ou telles qu'elles sont. Il était exactement entre les deux, puisqu'il s'est inspiré de figures de Raphaël, et il est très imbu des postures des postures, c'est ça, on peut dire ça, ou des poses, enfin, de la peinture classique. Ça, c'est ce que je vous dis là, c'est moi qui suis en train de parler de cette peinture, alors que le but, il est de donner la parole à ceux qui se baladent au Quai d'Orsay et qui regardent, qui n'osent pas toujours parler, mais qui là, pour nous, pour vous, ont osé.
Au premier plan, donc, une femme nue, deux hommes habillés, les restes du pique-nique, sur la gauche, en bas à gauche du tableau, au premier plan. À l'arrière-plan, une femme qui est en train de se baigner dans une petite rivière, il y a un canot à droite. Et à l'arrière-plan, une profondeur de champ assez vaste, de champ, justement, de nature. Et puis, sur les bords et en hauteur du tableau, une forêt, vu des arbres assez vieux. Et puis, les deux femmes, elles, se sont prêtées au bain, pas les hommes, manifestement, qui eux sont habillés en tenue de ville, par contre. Hein. Ouais. Alors il y a un homme à droite, sur le plan droit du tableau, qui est lui en position un peu allongée, comme sur un divan, à même le sol, sur le feuillage. Les jambes sont sur de l'herbe, le bras gauche est sur un petit promontoire, un petit talus, qui lui permet d'avoir une sorte d'accoudoir, et de tenir une pose très élégante, avec le bras droit un peu tendu, qui est lié à la conversation. Et lui, son visage est totalement de profil, il est coiffé, une petite coiffure qui n'est pas banal, et il pointe, je pense que sa main accompagne sa phrase, c'est-à-dire qu'il est dans une démonstration, il est en train de discourir, ce que je disais tout à l'heure, le côté un peu philosophique des choses, ou poétique, ce qu'ils vont faire, j'en sais rien, il y a le canot, ils sont venus en canot, c'est sûr, ils ont abordé là-bas, donc on suppose qu'ils ont fait une balade en le canotier, la balade traditionnelle sur la petite rivière, et qu'ils se sont posés effectivement pour prendre un petit bain, mais je crois qu'en fait il ne faut pas y voir grand-chose de plus.
Moi, ce que je vois aussi au milieu, c'est carrément un triangle. C'est-à-dire,
oui, oui.
On dit
alors
que
c'est au niveau de la composition. Oui.
On dit que ce tableau s'appelait la partie carrée, enfin, qu'il s'agit d'une partie carrée. Mais moi, ce que je remarque, c'est que la femme nue, l'homme habillé et l'autre femme à moitié dévêtue sont sur une même ligne et que ça forme un triangle avec.
Là, on est au niveau de la composition et de la géométrie de la composition.
Oui. Vous posez une question sur ce tableau.
Est-ce que je dois en poser une? La question qu'on peut se poser, c'est de savoir ce que le peintre a voulu faire naître comme fantasme, peut-être. Ou comme provocation pour l'époque. Donc c'est plus au niveau de l'interprétation de civilisation pour le 19e. Et puis on peut aussi poser le regard que porte l'observateur du 20e siècle sur un tableau comme celui-là. Et je dirais qu'il a forcément perdu sa provocation par l'évolution des mœurs. Mais est-ce qu'on doit se poser une question? Oui, que vont-ils faire après? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu ça. Bon, je pense qu'ils vont reprendre le canot, tout simplement. Contrairement à ce qu'on peut éventuellement. C'est pas une partie carrée au sens où vous parliez tout à l'heure de tableau carré là. C'est trop bourgeois, trop noble, peut-être trop cérémonieux justement.
Il n'y a pas de quoi. Ce qu'on appelle en Angleterre un pique-nique, mais c'est pas un grand pique-nique. Ce n'est pas. C'est presque rien. Il n'y a pas de vin, de. Et ce n'est pas à manger. C'est à peindre et pas à manger. Nature morte. C'est comme nature morte. C'est comme, pas comme un pique-nique. Pas du tout. Je vois un oiseau qui vole. C'est très rare. C'est un instant, comme un photographe. Parce que souvent, les oiseaux, ils sont assis sur les arbres. Mais ici, c'est un peu bizarre, je crois. Je ne sais pas.
Et qu'est-ce que vous voyez d'autre alors?
Les deux jeunes hommes et la jeune fille. La jeune fille en déshabit, bien sûr.
Shock the middle classes.
Pour épater les bourgeois, la bourgeoisie. Elle vient de nous voir. Les jeunes hommes ne savent pas que nous sommes ici.
Ce canard muet fait dire, cette peinture de Manet, Le déjeuner sur l'herbe, fait parler depuis très longtemps, comme beaucoup d'autres œuvres, chefs-d'œuvre accrochés dans nos six visites et musées. Et ça va des propos de ce visiteur qui dissèque doctement, comme dans les cours, et le cours de l'imagination débridée d'une étrangère qui se promène ici. Et alors, chacun voit ce qu'il a envie de voir, ce qu'il est capable de voir. Évidemment que ce regard, ces préoccupations, cette façon dont l'œil se promène, cet œil qui pense, après, à la suite de la main de l'artiste qui ne pensait pas nécessairement. Picasso a assez dit et redit à quel point il fallait trouver un chemin qui passe directement de l'œil à la main sans que le cerveau n'intervienne. Alors, à partir de là, on peut prêter au peintre bien des intentions, récupérer n'importe quel fragment de ses propos pour y voir des choses qu'il n'y a pas mis, des intentions qu'il n'a pas eues, mais beaucoup d'autres choses que, sans le savoir, bien évidemment, il a posé devant nous, il a assemblé dans un élan inspiré. Parce qu'il s'agit bel et bien d'inspiration de l'artiste, toujours vivant grâce à l'inspiration des regards portés sur ce déjeuner sur l'herbe.
Manet a peint ce tableau dans son atelier. Manet donnera toujours une grande importance aux figures. Manet emploie toujours les gris et toute la gamme des gris, du blanc au noir. Et regardez les ombres des arbres. Elles sont de quelle couleur, ces ombres? Elles sont de quelle couleur? Oui, elles sont noires, ou presque noires, parce qu'on a dit qu'on disait gris très foncé. Et en fait, Manet va être un peintre qui va faire partie de ce qu'on appelle la nouvelle peinture, mais il n'est pas, c'est un peu tôt encore, mais il ne sera pas, même après, impressionniste.
Je vois une femme qui se baigne, hein, enfin qui se trempe les pieds dans l'eau, à l'arrière-plan, donc un étang, et puis ça va doucement jusqu'à l'horizon, avec des tons extrêmement fondus, extrêmement doux. Au point de vue feuillage, le feuillage aussi est très doux. Il y a un éclairage, curieusement, qui semble venir de droite, plutôt, parce que, enfin, qui éclaire le côté droit, alors que la femme était très éclairée devant. Bon, alors il peut y avoir un jeu sur le feuillage, là. Par contre, le côté gauche, vous voyez, la mare est beaucoup plus sombre. Et donc, il y a cette tache jaune qui attire le regard sur la droite, jaune-brun, un peu, qui n'est pas très vive, mais qui attire le regard et qui fait un rappel avec, je pense, le feuillage de gauche.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à côté d'elle, à gauche? Il faut regarder dans la nature un petit peu. Bon, alors...
C'est un déjeuner sur l'herbe, ça. Mais ils n'ont même pas mangé. Vous voyez, par exemple, des fruits. Hein, d'abord, c'est tout, alors ça fait un peu juste. Et puis surtout, ça n'a pas été entamé. Donc, c'est un faux déjeuner sur l'herbe. C'est pas... Sinon, il y aurait des pâtés, il y aurait, enfin, je sais pas, à l'époque, il y aurait une bouteille de vin, un pâté. Donc, c'est plus des nourritures symboliques que des nourritures réelles, je pense. Dans ce sens-là, que je le verrai. Hein. Mais bon, c'est... Vous savez, la peinture, c'est personnel. Hein.
Si vous regardez les fruits qui sont là, vous avez par exemple des cerises et des figues. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur, encore moins de congélateur. Et les cerises mûrissent en juin, juillet. Et les figues, à la fin de l'été. Est-ce qu'on peut les avoir en même temps? Est-ce que le peintre a pu les voir en même temps? Il a pu les voir en même temps, le peintre? Non. Aujourd'hui, évidemment, avec la congélation, on peut tout faire. Bon, mais à l'époque, non. Et ce qui montre bien que c'est aussi, il y a une part d'imagination très grande, aussi pour des détails comme ça. Ça, ça le confirme.
C'est certainement des rapins, hein. C'est l'impression qu'ils donnent un peu. Hein.
Des quoi?
Des peintres. Ils me paraissent pas très élégamment vêtus. Mais ils sont donc, c'est sombre, ils sont vêtus de façon sombre, tous les deux, hein, par rapport à la femme qui est, quoique lui a un pantalon clair, mais enfin on le voit très très peu. Hein. On dirait même la blouse, un peu une blouse plutôt qu'une veste, enfin je ne sais pas si je vois bien, mais celui de droite paraît avoir la blouse de peintre, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est peut-être un rapin, enfin un peintre de l'époque, quoi, simplement.
Ceci, c'est la faluche que portaient les étudiants à l'époque. En plus, le peintre a fait poser son frère et son beau-frère. Donc, on pouvait les reconnaître.
Et puis, cette femme nue, et c'est l'étonnement, et ça intrigue. On se dit, mais enfin, que peut-il se passer?
Ce n'est pas un nu, c'est quelqu'un de dévêtu. Alors, autant la nudité dans la peinture et dans l'art était acceptée depuis toujours. Mais il y avait une distance qui se créait parce que c'était l'histoire, parce que c'était idéalisé, parce que c'était héroïque. Autant là, c'est quelqu'un de 1863, même si Manet dit « Oh, je ne vois pas pourquoi vous êtes choqué, parce que tout le monde va être choqué quand ce tableau va être présenté. » Manet dit « Je ne vois pas pourquoi, parce que je me suis inspiré d'une peinture d'un grand maître de la Renaissance italienne. » Et en plus, il s'est inspiré d'une peinture d'histoire. Or, je vous ai dit tout à l'heure que le peintre le plus important était un peintre d'histoire.
Savant et passionnant, il faut bien dire. Mais les deux regards sont aussi intéressants et passionnants. L'un que l'autre, on continue à méditer, à regarder, à scruter le déjeuner sur l'herbe.
Bien. Alors, est-ce que vous voulez poser d'autres questions?
Moi, j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous voyez?
Deux hommes bien habillés, assis par terre, une très jolie femme nue, et un tsunami qui se baigne derrière ou qui ramasse quelque chose par terre, je ne suis pas sûr. Et qui viennent de déjeuner avec tous les fruits, du pain et tout ça qui reste par terre. Tout ça très bien organisé dans la forêt. C'est ça que je vois. Et puis l'expression de cette femme nue avec une toute petite sourire, avec ses yeux très brillants qui sont en train de regarder quelque chose.
Le première peinture féministe.
Le déjeuner sur l'herbe, c'est la première peinture féministe?
Oui. Parce que la femme est indépendante, confiance.
La dame qui est nue semble indépendante et confiante.
Oui, oui. Les hommes, intellectuels, philosophie. Et la femme est so independent and above the discussion.
Les deux hommes sont en pleine discussion, mais la femme est là, indépendante et au-dessus de cette discussion.
Oui, 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 oui. Mystérieux. What happened? Quel passé avant? Pourquoi des hommes sont discussion, intellectual, and la femme? It's mysterious.
C'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi, ce qui s'est passé avant, ni quelle discussion intellectuelle il s'agit, que la femme est là, nue, à côté.
Yes.
Avant, ça on ne sait pas. On ne sait pas si les deux hommes ont fait l'amour avec cette femme. On ne sait pas si ils sont comme ça parce que c'est la vie, enfin, c'est leur manière de se communiquer entre eux.
I don't think they made love. I think she just independently said, it's a beautiful day, I'm taking my clothes off, I'm going for a swim, I don't know.
Vous imaginez que la femme, ils n'ont pas vraiment fait l'amour ensemble avant, mais elle se serait mise nue d'elle-même en disant, c'est un très beau jour, je vais me mettre nue.
Oui, 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 c'est ça, c'est ça.
C'est intéressant, hein, comment les femmes voient la femme, comment la femme à l'instant, il y a quelques instants, contemplait vraiment cette autre femme, et comment celle-ci voit dans la figure le nu, alors le dévêtu, bon, si on veut, de déjeuner sur l'herbe, alors voit quelque chose de féministe, là, dans la mesure où cette femme a l'air tout à fait indépendante, des hommes qui sont en train de philosopher, peut-on se dire, passionner la conversation. On pourrait voir le contraire, une sorte de bestiaux à leur disposition, là, nu, dont on fera quelque chose tout à l'heure. Ces deux regards totalement différents, et c'est toute la, c'est peut-être là-dedans que réside essentiellement la beauté, la beauté toujours féconde du geste, de l'un des gestes de Manet.
Alors, on voit un monsieur habillé en costume. Enfin, il y en a deux. Il y a une dame. Enfin, ils font une dame nue. Ils font un pique-nique. Il y a une autre dame qui cueille de l'herbe.
Ils sont de l'herbe.
Enfin, ils sont dans une forêt. La dame nue, elle s'est déshabillée, puis elle avait un panier de fruits.
Avec des cerises.
Mmh. Et il y a un monsieur, on dirait qu'il est russe, parce qu'il a un chapeau comme les Russes. C'est tout.
Qui est-ce qui l'a déshabillée, la dame?
Je pense qu'elle s'est déshabillée toute seule, à mon avis. Bah oui, elle a quelque chose sur elle encore, qu'on dirait qu'elle est en train d'enlever, mais...
Mais ça se voit même, on a l'impression que vraiment elle s'est déshabillée toute seule. On n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui l'ait déshabillée.
Bah en fait, ses habits sont à côté. Si ça aurait été les messieurs, ça aurait été sûrement à côté des messieurs.
Comme les habits sont sous ses fesses, il peut pas le mettre sous elle. On sait pas, mais on devine. À notre avis. Parce qu'elle a un moment sur sa jambe, on voit, elle a encore un bout de tissu. Et si c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait déshabillé, il l'aurait complètement déshabillé. Tandis que là, c'est simplement le corps. Et puis, mais il reste un bout de tissu sur sa jambe. Donc on a plus l'impression que c'est elle qui s'est déshabillée toute seule.
Puis peut-être qu'elle voulait se baigner, parce que comme il y a une rivière juste à côté. Quoi qu'on dirait qu'elle a pris un bain parce qu'elle a, on dirait qu'elle a un tissu comme Stéphanie a dit, un tissu peut-être pour s'essuyer, peut-être parce qu'il fait chaud, enfin je sais pas pourquoi elle s'est déshabillée.
Bah s'il faisait chaud, tout le monde se sera déshabillé.
Il y a un flacon à côté, peut-être qu'elle bronze, elle s'est mis du produit et elle bronze.
Et c'est qui ces gens?
Sûrement des personnes riches parce que à voir les habits qu'ils ont, ils ont des habits noirs, des costumes, ils ont une cravate noire. Il y a un monsieur qui a un chapeau russe, on pourrait dire, il a une canne. Il a, par contre, l'autre, il a un espèce, pas une cravate, mais quelque chose comme une cravate qui est rose.
Enfin, ils sont habillés en costume du dimanche, comme autrefois. Dans le temps, pas tous les gens étaient riches, c'est pour ça. Donc là, il y en a qui peuvent tout s'offrir, d'autres non.
C'était une nouvelle diffusion du reportage d'Elena Namias pour l'émission La Bas si j'y suis de Daniel Mermet. L'équipe de La Bas si j'y suis, c'est Antoine Chao et Yann Chouquet à la réalisation, assistée de Pascal Pascariello. Le chef répondeur, c'est Christophe Imbert au 01 56 40 37 37. À la technique, aujourd'hui Patrick Henry et Rémi Quincaise. À voir ce week-end et jusqu'au 28 février au cinéma L'Écran Saint-Denis, les 6e journées cinématographiques dionysiennes sur le thème Sex is politics. Tous les renseignements au 01 48 20 85 76. À écouter et à voir également André Mainviel jusqu'au 19 mars au théâtre Antoine Vitez. France Inter, il est 18h. Vous retrouvez Bruno Duvic pour les informations.